Vous écoutez Art District et tout de suite la chronique Muse et Mécène d'Anne Serin-Reil vous fait découvrir des hommes et des femmes qui ont marqué à leur manière l'histoire des arts.
Giovanna Romani est née en 1869 à Velletri, en Italie, sous le nom de Caroline Carlesimo. Elle est une des très rares peintres à avoir réussi à s'imposer à une époque où les femmes étaient peu reconnues pour leur talent. Et si elle fit partie des femmes les plus renommées de son époque, son œuvre reste très méconnue et son nom quasiment oublié. Pourtant, dans les années 1900, les épiceries Félix Potin créent une image publicitaire à collectionner, intitulée « Giovanna Romani, peintre ». Et l'ajoute à la série des 500 célébrités contemporaines. Cette série d'images était offerte avec les tablettes de chocolat de la marque et pouvait être collée dans des albums. Ainsi, son effigie avait rejoint celle des têtes couronnées, des personnalités en vue et des artistes renommés de l'époque. En 1877, la petite Giovanna, est alors âgée de 8 ans, s'installe à Paris avec sa mère et son beau-père Thémistocle Romani. Très jeune, la jeune fille commence par poser pour des écoles d'art, dont l'Académie Colarossi. Sa plastique avantageuse et ses beaux cheveux au burn la font vite remarquer, et en peu de temps, elle devient la coqueluche des sculpteurs et des peintres parisiens. Nous la voyons apparaître sous la plume de Émile Durand-Gréville. Henner m'a montré une tête de face, aux grands yeux, au teint blanc mat, aux cheveux doux ardents. Étude, ou plutôt fantaisie, d'après une Italienne de 17 ans, très jolie. Celle-là même qui a posé pour Falguière, la Diane chasseresse. Elle est devenue depuis un peintre de talent. C'est mademoiselle Giovanna Romani. Et oui, Giovanna Romani a cette folle ambition pour l'époque. Elle veut devenir peintre, et un peintre reconnu, tant sur sa terre d'adoption que sur la terre de ses origines, l'Italie. De conditions modestes, il lui est difficile de payer des cours de peinture. Elle choisit donc de mettre à profit ses longues séances de pause pour échanger avec les artistes et apprendre d'eux tout ce qu'elle peut. Elle souhaite surtout travailler avec des artistes reconnus et ne s'en cache pas, comme en témoigne encore Émile Durand-Gréville dans un extrait d'entretien qu'il a eu avec Henner. Ayant envie de connaître le maître et de poser pour lui, elle vient sonner à sa porte très souvent, pendant plusieurs années, dit-elle. Longtemps, ce fut sans succès. Car il faut sonner 3 coups chez Henner pour avoir une chance d'être reçue. Enfin, soit par hasard, soit que Falguière l'eût annoncé, elle parvint à ses fins. C'est une femme peu instruite, mais très intelligente, développée par le milieu artistique dans lequel elle a vécu. D'après Henner, elle se connaît fort bien en peinture, mieux que beaucoup de peintres, ajoute-t-il. Elle se plaint amèrement de poser devant des artistes sans talent qui font des croûtes d'après elle. Par contre, elle adore les grands artistes. « Je voudrais rester tous les jours dans votre atelier », répète-t-elle à Henner. Ainsi, à force de persévérance, elle parvient à rentrer dans l'atelier du maître, mais aussi dans celui de Carolus Duran et de Ferdinand Roybet. Pour elle, les peintres qui resteront sont les hommes robustes, Velázquez, Rembrandt, Henner et Roybet. Elle devient leur muse et inspire à Jean-Jacques Henner de magnifiques toiles comme « La liseuse »,« La dormeuse » ou « Hérodiade ». Ferdinand Roybet peint de nombreux portraits d'elle, dont certains sont présentés au salon. Il l'a fait apparaître avec sa mère, Anna Maria Romani, dans une de ses œuvres intitulée « La main chaude », exposée au musée Roybet-Fould à Courbevoie. La jeune fille apprend vite. Son talent, déjà remarqué par Filippo Colarossi, sculpteur italien et directeur de l'Académie portant son nom, finit également par attirer l'attention de Carolus Duran et de Henner. Il lui propose d'entrer dans l'atelier des dames qu'ils ont conjointement fondé dans lequel ils enseignent. Giovanna Romani devient donc officiellement leur élève. En 1888, à l'âge de 19 ans à peine, la Romani quitte les estrades comme modèle au grand regret de ses maîtres et de ses amis membres de l'Union des femmes peintres comme Consuelo Fould ou Marie Tonnoir Kerr, pour lesquels elle posait parfois. Désormais, elle se consacre exclusivement à la peinture. C'est également dans cette période que Giovanna devient la maîtresse de Roybet. Leur liaison dura plus de 20 ans. L'ascension de Giovanna Romani est fulgurante. Elle est admise au Salon de la Société des artistes français de 1888 à 1904 et obtient une médaille d'argent pour sa peinture présentée à l'Exposition universelle de 1889. Dès lors, elle vit de son art et attire des collectionneurs. Elle se fait connaître pour ses portraits de personnalités connues, comme celui de la princesse Joachim Murat, de la duchesse de Palmela, de Madame Herriot ou de la comtesse de Brich. En 1892, Roybet présente deux portraits au salon, dont un portrait de celle qui partage désormais sa vie. Ce dernier remporte de nombreux éloges. De son côté, Johanna expose deux de ses œuvres, également très remarquées. Voici ce que disent les critiques. Mademoiselle Johanna Romani, donc contente d'être héroïne de Roybet, a tenu à être représentée aussi par ses propres œuvres. Rendons-en grâce à la charmante artiste et complimentons-la une fois de plus sur sa Manuela et sa Bianco Capello. Ses œuvres figurent régulièrement dans la presse illustrée comme l'art français ou l'illustration. En 1896, Louis Gons, du Monde moderne, écrit « Cette jeune et sympathique artiste me pardonne de lui dire sans périphrase que je la trouve plus habile que M. Roybet lui-même. » Le 1er mai 1903, le magazine Femina la remarque parmi 7 artistes femmes présentées au salon. Le poète, homme de lettres et critique Armand Silvestre, lui voue une véritable vénération. Johanna lui dédicace son tableau Giovanella. Silvestre signe des poèmes inspirés par ses œuvres et lui consacre des critiques élogieuses. « La beauté et le talent ne furent jamais, je crois, mariés plus étroitement à un être impérieusement né pour l'art et pour la séduction. Merveilleusement doué et cependant volontaire, travailleur admirable, dont l'œuvre grandit comme s'épanouit une véritable floraison. » Ce dernier, nommé inspecteur des Beaux-Arts en 1892, a probablement joué un rôle important dans l'acquisition par l'État de deux tableaux de Johanna Romani, Primavera et Salomé, le premier en 1895 et le second en 1898. Forte de ce succès fulgurant, la belle Italienne choisit de revenir sur les terres de ses origines en 1901. Après avoir participé à la 4e Biennale de Venise, elle se rend à Velletri, accompagnée de son grand ami Antoine Lumière. Le célèbre inventeur français donne à la ville natale de Johanna Romani un dispositif cinématographique. La salle sera inaugurée sous le nom des Frères Lumière. Au cours de ce voyage, Johanna alloue également la somme de 5000 francs à l'école d'art qui porte désormais son nom. Johanna Romani a 32 ans. Elle est au sommet de sa gloire et a exaucé son rêve. Être reconnue pour son talent en France et en Italie. Cependant, le succès lui amène énormément de commandes qu'elle a de plus en plus de mal à honorer. Débordée, surmenée, elle consomme depuis plusieurs années un breuvage qui l'aide à tenir bon, pense-t-elle. Le vin de Mariani. Ce vin, concocté par le pharmacien Angelo Mariani, ami proche de Johanna, est un mélange de vin et de coca. De tempérament flamboyant et excentrique, Johanna ne sait pas vivre dans la modération et sa consommation excessive de ce breuvage, très à la mode à l'époque, aura finalement raison de sa santé. Après plusieurs séjours de désintoxication sans grand résultat, elle sera internée définitivement à partir de 1906, à l'âge de 38 ans. Le diagnostic est cependant étrange. Agitation intense, psychose hallucinatoire chronique, délire avec des idées de persécution et prédominance d'idées ambitieuses. L'ambition serait-elle source de folie chez les hommes? Ou plutôt chez les femmes? Elle meurt bien des années plus tard, en 1924, dans un établissement de santé installé au château de Suresnes. En 17 années de carrière, Johanna Romani fut muse, égérie et peintre reconnue. Émancipée de son statut de modèle, elle obtient une notoriété peu égalée parmi les artistes femmes de cette époque. Plusieurs plumes rendent hommage à son talent. Sa science de peintre, qui procède autant de Roybet que d'Henner, certaines fois plus de l'un que de l'autre selon le tableau, est très sérieuse. Elle est d'une habileté extraordinaire. En dehors de ces deux peintres, peu de critiques se risquent à évoquer d'autres sources d'inspiration. Pourtant, si Armand Silvestre évoque le Titien, le Courrèges et Véronèse, l'ascendance de Velázquez est mentionnée à plusieurs reprises. Henri Bordeaux dit de ses tableaux qu'ils sont peints à la manière du peintre espagnol. « Johanna Romani nous change, dit-il. C'est le triomphe de la couleur dans les chairs et les étoffes, débauche admirable de ton miroitant et nacré, belle à rendre fou, sa mina da fiesole. » Mais laissons à cette femme flamboyante les derniers mots. « Vous me demandez mon avis sur la peinture, écrit-elle au rédacteur en chef de Cocorico en 1901. J'aime la peinture sous toutes ses formes, lorsqu'il s'en dégage quelque chose, ce « je ne sais quoi » qui est l'âme de l'artiste Et quand l'artiste est doublé d'un vrai peintre, alors c'est le chef-d'œuvre. Rembrandt et Velázquez, voilà mes dieux.
C'était Muse et Mécène, la chronique d'Anne Serin-Reil sur Art District. À retrouver tous les mardis et jeudis à 7h30 et 13h30.